I will try to speak slowly, unlike everybody else, who has spoken very fast. Round two. So, my question to you is, why is it so easy for us to see the harm inflicted by previous generations of doctors here bleeding the patient, while we are so blind to the harms that we are causing ourselves? Throughout human history, unscrupulous people have sought to make money out of human illness. And today, perhaps more than ever, they are being actively helped by the wishful thinking of good intentions. Look at the increase in the prescribing of antihypertensive drugs across the richer countries of the world over just the last decade. Now, France is looking fairly restrained and near the top, but the rate of increase is still very dramatic. And here are the anti-cholesterol drugs, with France doing less well, I must say. So are these rates of prescription justified with their, if you take into consideration their cost and their potential for harm? More than 10 years ago, the 2003 European Society of Cardiology guidelines suggested screening for blood pressure above 140/90 and for with no age adjustment, and for serum cholesterol above 5 mmol/L to identify those at risk of ischemic heart disease. Now, the clinicians were not necessarily supposed to start treatment at those levels, but the guideline was quite clear. You were expected to tell your patient that they were at increased risk of cardiovascular disease. Now, Lynn Getz and colleagues in Norway applied those thresholds to the entire adult population of the Norwegian county of Nord-Trøndelag. Because they had the data, the Nord-Trøndelag Health Survey had collected measurements of blood pressure and cholesterol for 62,000 adults aged between 20 and 79 in the mid-1990s. Now, when they applied the European Society guidelines, the half the population were considered to be at risk at the early age of 24. By the age of 49, this proportion rises to 90%. And so altogether, 76% of the adult population were found to be at increased risk. Current life expectancy at birth in Norway is 81 years, trailing France, obviously, but still one of the longest living populations in human history. Something is going very, very wrong. It is simply not possible for three quarters of one of the longest living populations in history to be at increased risk of early death. And yet, we so fear in every single consultation which follows these guidelines. And fear itself throws a massive shadow across life and undermines health. This is a massive exercise in overdiagnosis and iatrogenic harm, in which we are all implicated. Now, in this book, and I think in all his work, the writer John Berger seems to identify what really matters in life as being human relationships and trying to tell the truth. He writes, in the voice of his mother, "All you have to know is whether you're lying or whether you're trying to tell the truth. You can't afford to make a mistake about that distinction any longer." And more, I believe that these are the two most important things in every aspect of human life, and certainly within healthcare. When I started thinking about this, I thought they were two rather separate things. But now I think that they're profoundly interwoven. So I'm going to start with trying to tell the truth. Science is the foundation of our profession's attempt to tell the truth. This serious study of medical science, as we just heard, is absolutely essential for all of us. But it is never enough. There is much more to the practice of medicine than the science on which it claims to be based. And in trying to tell the truth, we need to acknowledge the harms of scientific medicine alongside its benefits. Its pretension to knowledge that does not stand up to scrutiny. Its exclusion of other important sources of knowledge. And its insidious corruption by conflicts of interest and by wishful thinking. People are harmed to a greater or lesser extent whenever they are objectified and depersonalized. And in medicine, this is driven by a toxic combination. On the macro side, at the top, by public health utilitarianism in the name of justice. And on the micro scale, at the bottom, by the imperatives of biomedical science. All we have to counter these harms are the strength of human relationships and the capacity that they have to reassert the subjectivity of the individual person. The main engine of overdiagnosis is the medical technology industry that enables healthcare professionals to investigate more and more minutely and to measure and assign numbers to an ever-increasing range of biometric parameters. These numbers are almost always normally distributed along a continuum. And at one extreme, those numbers represent a degree of abnormality which begins to correlate with symptoms and to correlate with suffering that can be ameliorated or even cured by medical treatment. That's good. The problem is that yet another toxic combination, this time of vested interest and good intentions, produces continual pressure to extend the range of abnormal, shifting the demarcation point further into territory previously considered normal. And this is encouraged by the entrenched belief in such old phrases as prevention is better than cure, and a stitch in time saves nine. And we imbibe these ancient sayings at such a young age that they assume an almost mythical aura of truth. And we forget Karl Popper's imperative of investigating why they might be wrong. We are beginning to investigate what is wrong with prevention is better than cure. But it has taken us an awful long time to get there. In our enthusiasm, we have allowed ourselves to forget this immensely important document. Published by the World Health Organization in English in 1968 and in French in 1970. I'm now at the very end of my medical career. In 1968, I was just at the beginning, just starting to study medicine as an 18-year-old. So back then, in this book, Wilson and Jungner wrote, "The central idea of early disease detection and treatment is essentially simple. However, the path to its successful achievement, on the one hand bringing to treatment those with previously undetected disease, and on the other avoiding harm to those persons not in need of treatment, is far from simple, though sometimes it may appear deceptively easy. I think it's taken the whole of my career for this message to begin to be understood. Its truth has been demonstrated over and over again during the intervening four decades, and yet we still fall into the same traps. Remember Wilson and Jungner's 10 principles. I'm sure we all love these in medical school. And we've neglected all of these, but perhaps particularly numbers 7 and 9. Screening mammography, as we've already heard today, is falling foul of both of these. And in the UK, I don't know whether you have this yet, but our government has a sudden enthusiasm for the early diagnosis of dementia. We absolutely fail to understand how to identify the small proportion of those with mild cognitive impairment, which I feel I'm on the borderline, who will progress to full-blown dementia. We have no idea of that natural history. And we already have inadequate provision for the care and support of those with dementia who have already been diagnosed and who we can safely assume are the most seriously affected. In pursuing the self-evident truth that prevention is better than cure, we have, for the first time in human history, separated our notions of disease from the human experience of suffering. And we have created an epidemic of disease without symptoms, defined only by abnormal biometrics. An ever greater proportion of healthcare resources are directed towards reducing these numbers to some fictitious state of normality. And in the process, those who are perfectly well are not only assigned labels that in themselves can compromise health, but are also exposed to treatments with significant adverse effects. Yet time and time again, politicians are unable to resist the easy attractions of preventive rhetoric. Because if nothing else, it serves to distract attention from government's failure to meet its own responsibilities for health protection through fiscal and legislative measures in terms of promoting greater socioeconomic equity, nurturing vulnerable families, and such policies as minimum pricing for alcohol and plain packaging for cigarettes. Extending the range of abnormal clearly expands markets for pharmaceutical and other interventions, and thereby the possibilities of maximising commercial profits. But it also invokes the Will Rogers thing. I'm sure you have the same sort of joke between Paris north of the river and Paris south of the river, or some such. But the Will Rogers phenomenon was first applied to medicine by our Alvin Feinstein and colleagues back in 1985. The Will Rogers phenomenon occurs whenever the range of a diagnostic category is extended. As more and more people previously considered normal are included within the definition of, for example, hypertension or diabetes or breast cancer, outcomes improve. Rates of hypertensive stroke, diabetic foot amputation, breast cancer mortality appear to fall. In this way, extending the definitions of disease and lowering the thresholds for preventive interventions creates the illusion of improved population outcomes, while there is no difference at all in the outcomes for affected individuals. And we have just seen the New England Journal of Medicine publish a paper saying that preventive interventions for diabetes type 2 have been effective without any notion of the Will Rogers effect. Clinicians, health policymakers, and politicians have all found it very difficult to resist these seductive illusions of progress. The whole discipline of medicine has colluded in the wider societal project of seeking technical solutions to the existential problems posed by distress, suffering, and the finitude of life, the inevitability of aging, loss, and death. Look at the increase in antidepressant prescribing over the last decade. And again, France looks pretty good. I don't know what your friends in Canada are up to. It's, and Iceland is off the scale. But we have been trying to treat all sorts of distress and unhappiness, however understandable, with a biotechnical solution that has significant causes significant harms. When we start out in medicine, and rather unbelievably, aging is a curious process, this is me, starting clinical medicine in 1971, sweet innocent child. But when we start out, we are undoubtedly motivated by good intentions. We want to do good and we want to help people. We are taught that we can achieve these great objectives by doing things to people, by performing operations, applying treatments, and prescribing medications. We are taught to do, to intervene, to be active. We are very seldom asked to consider the potential harms of what we do. This wise old woman is the British philosopher Mary Midgley. And she writes, "Out of this fascination with new power, there arises our current huge expansion of technology, much of it useful, much not. And the sheer size of it dangerously wasteful of resources. It is hard for us to break out of this circle of increasing needs because our age is remarkably preoccupied with the vision of improving means rather than saving ourselves trouble by reflecting on ends. We have become the age of unthinking doing. Keep doing. Don't stop to think, there's no time, and there's no time because we're so busy doing. And we worry about the means of doing, and we forget about our aims, our ends." Here are several possible candidates for the end of medicine, for the aim of medicine, each of which mandates completely different means. And it seems to me we have never understood the contradictions and conflicts between these different ends. The first two or three concern sick individuals. Four and five require population-based interventions. If we prioritise increased length of life, we may simply add to the sum of human suffering, etc., etc. What is the hierarchy of these aims? Who decides? In this book by the Dutch philosopher Anne-Marie Mol, she's writing about the difficult, repetitive, iterative nature of the care of the sick and suffering, familiar to all doctors, whatever their healthcare setting. And she writes, "You do what you can. You try and try again. You doctor, but you have no control. And ultimately, the result is not glorious. Stories about life with a disease do not end up with everybody living happily ever after. They end with death. All human stories and all human lives end in death, however much we like to pretend the opposite. And the possibility of death, however unacknowledged, is present in almost every healthcare interaction." This paper by the Harvard medical historian Charles Rosenberg asks a crucially important question. How does one manage death, which is not precisely a disease, when demands for technical ingenuity and activism are almost synonymous with the public expectations of a scientific medicine? So I repeat. The great misguided project of the last 50 years has been the application of technical solutions to existential problems. We have turned away from the enduring human task of finding some sense of meaning in the face of the limitations of life by diverting our attention to the technical means, to the biomedical interventions aimed at extending life. But it's no use. The existential tasks persist despite the apparent increasing potency of our means. This English gravestone from 1788 reads, "Affliction sore I long time bore, physicians were in vain, till God did please death should me seize and ease me of my pain." We must remember that death curtails our joys, but it also sets limits on our misery. Bioethicist Daniel Callahan describes what he has termed the difficult child of medical progress. The 1% of patients who consume 21% of healthcare costs, usually succumbing gradually from multi-organ failure, illustrate the progress problem. 50 years ago, they would have died faster, and in many cases, with less suffering. We have traded off shorter lives and faster deaths for just the opposite, longer lives and slower death. Is that a good trade? I'm a bit doubtful. This is, of course, Samuel Beckett, who's described by the literary critic Christopher Ricks as the great writer of an age who has created new possibilities and impossibilities even in the matter of death, of an age which has dilated longevity until it is as much a nightmare as a blessing. And as so often, it is not knowledge that we lack. What is missing is the courage to understand what we know and draw conclusions. In 2012, a New York Times op-ed article by their columnist Bill Keller described the death of his father-in-law in a hospital in the east of England. And it was entitled "How to Die." And this is an excerpt. "The surgery had been unsuccessful, the doctor informed him. There was nothing more that could be done. So I'm dying, the patient asked. The doctor hesitated. Yes, he said, "You're dying, Dad," his daughter affirmed. "So," the patient mused, "no more whoop-de-doo. On the other side, there'll be lots," his daughter, my wife, promised. The patient laughed. "Yes," he said. He was dead 6 days later, a few months shy of his 80th birthday. Later we learn, during Anthony Gilby's 6 days of dying, he floated in and out of awareness in a cloud of morphine, unfettered by tubes and unpestered by hovering medics. He reminisced and made some amends, exchanged jokes and assurances of love with his family, received Catholic rites, and managed to swallow a communion host that was probably his last meal. Then he fell into a coma. He died gently, loved and knowing it, dignified and ready. "I have fought death for so long," he told my wife near the end. "It is such a relief to give up. We should all die so well." The key to that good death was turned by this interchange. There was nothing more that could be done. "So I'm dying," the patient asked. The doctor hesitated. "Yes," he said. The doctor hesitated, but he had the courage to understand what he knew and to be honest with his patient. These are pivotal statements. And of course, the second option is always preferable because there is always something we can do, even if it is only to sit for a moment and to hold a hand. But it is never, it's important never to underestimate the courage involved in embarking on one of those statements, one of those nothing more statements. Because if we do underestimate it, they're not said often enough or soon enough in many situations. And the poet Czesław Miłosz acknowledges this. "To know and not to speak, in that way one forgets. What is pronounced strengthens itself. What is not pronounced tends to non-existence." If we as doctors know and don't speak, the reality and imminence of death tends to non-existence. And patients and relatives have no opportunity to prepare themselves. As the writer and surgeon Atul Gawande puts it, how do you attend to the thoughts and concerns of the dying when medicine has made it almost impossible to be sure who the dying are? And American physician and bioethicist Leon Kass writes, how to negotiate the balance between these two perspectives on life? The life-preserving, yet life-corroding view of medicine, and the vulnerable, yet life-fulfilling view of ordinary existence, is perhaps the deepest and most subtle ethical task we face. Medicine hasn't learned when or how to stop. We seem to have completely forgotten that death is not necessarily a medical failure, and lost sight to the extent to which the care of the dying is a core task of medicine. 2012 World Health Organization Global Health Expenditure Atlas reports that the OECD countries, that includes yours and mine, consume more than 80% of the world's healthcare resources, but experience less than 10% of the world's disability-adjusted life years. This must be unsustainable in terms of both global justice and the world's capacity. The problem is that where the OECD countries lead, the rest of the world tends to try and follow or is pushed to follow. At every level, this is a story of unsustainable greed. The greed of those of us living in the richer countries of the world for ever longer lives, and most particularly, the greed that drives and sustains the commercial imperatives of the pharmaceutical and medical technology industries. Yet the flip side of greed is always fear. Fear that we or someone we love will be deprived of effective treatment because of issues of price or access to care. But neither greed nor fear can really help us. The only solutions to these profound existential challenges that have beset humanity since the beginning of time are to be found in courage and endurance and acceptance of the limits of life. They are to be found in thinking differently and more deeply. This is the great American writer Saul Bellow, and this is a man always acutely aware of humanity's profoundest existential challenges. A couple of months ago, I read Mr. Sandler's Planet, and in it, Bellow writes about seeing the singular human creature demand more when the sum of human facts could not yield more. This applies both to patients and their doctors. Everyone seems to want to demand more than the facts will yield. And he goes on, scarcely worth so much effort, perhaps. There are times when to quit is more reasonable and decent, and hanging on is a disgrace. Not to go beyond a certain point in hanging on, not to stretch out the human material too far, the nobler choice. So Aristotle thought, not to be forever pushing the law of diminishing returns. And finally, Bellow asks, do we always, to the point of misery, do a thing? Persist until exhausted, perhaps. And it seems to me that all our hopes lie in that word, perhaps. Overdiagnosis and overtreatment have at least four serious implications. The first is the extent of harm to individuals caused by being labelled as being at risk or as having a disease based entirely on numbers or other tests, and the unnecessary fear that engenders. The second involves the direct relationship that, again, we've mentioned before today, of the link between overtreatment and undertreatment. Because whenever a diagnosis is broadened, attention and resources are inevitably shifted away from those most severely affected. The third concerns the potential of overdiagnosis and overtreatment to render healthcare systems based on social solidarity unviable because of the escalating costs involved. And the fourth is the way in which biotechnical activity marginalises and obscures the socioeconomic causes of ill health. So let me end with this great sociologist, wise man, Zygmunt Bauman. And he writes, to be responsible does not mean to follow the rules. It may often require us to disregard the rules and to act in a way the rules do not warrant. Only such responsibility makes the citizen into that basis on which can be built a human community resourceful and thoughtful enough to cope with the present challenges. And whenever I see the sort of guidelines that are right now driving overdiagnosis and overtreatment, I think of this. Thank you.
Ce que l'on constate, c'est que depuis hier, on ne décidera plus hier, c'est mettons une dizaine d'années pour couvrir largement. Depuis une dizaine d'années, ces sujets sont progressivement devenus des sujets qui pèsent de plus en plus. Et nos préoccupations, que nous partageons depuis maintenant 3 ou 4 ans, sont des préoccupations qui intéressent d'autres gens. Et plus on regarde, c'est exactement comme le dépistage, plus on constate qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces sujets. On en trouve, bien entendu, et nous recevons une grande partie de nos informations dans le monde anglo-saxon. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie, pour citer quelques pays de langue anglaise, il y a des gens qui, comme nous, ont ce genre de préoccupation, peut-être d'un peu plus longtemps, de plus en plus longtemps, et qui se réunissent. Il y a eu des colloques assez comparables aux nôtres, peut-être plus fournis participants, aux États-Unis, dans deux endroits, à Dartmouth et à Boston, en Grande-Bretagne, et il y a eu un colloque, et cette année il va y avoir un deuxième, sous la responsabilité de Naïf, que vous connaissez maintenant. Et ces colloques se nourrissent d'un certain nombre d'événements, d'un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que nous apprenons qu'il existe un problème concernant les conflits d'intérêts. C'est devenu une actualité presque constante dans beaucoup de pays parce que, effectivement, la santé est un lieu d'énormément de conflits d'intérêts. Il y a des problèmes d'indépendance ou au contraire de dépendance par rapport à des puissances commerciales. Il y a des problèmes concernant la nosologie avec cette inflation galopante de problèmes liés à de nouvelles maladies. Je mets des guillemets à nouvelles maladies, on va voir ça. Alors, les mêmes questions se posent ici et ailleurs. Quelles conséquences en découlent? Quels sont les facteurs qui déterminent ces phénomènes? Et parmi ces facteurs, certains commencent à être connus. On ne sait bien entendu pas beaucoup de choses encore, mais on en sait suffisamment pour se rendre compte qu'il y a là une matière à nouvelles connaissances, et pas seulement, comme le disait le doyen de cette faculté en nous accueillant ce matin, matière à réflexion, mais matière à réflexion, puis matière à agir. Car nous pensons que la réflexion sans action, c'est un bel exercice intellectuel, mais que dans le cas qui nous concerne, il y a mieux à faire que simplement agir dans cette idée. Alors, surdiagnostic, au pluriel, surtraitement sont dénoncés. C'est une première étape. C'est toujours comme ça que les choses commencent. Les gens commencent par réfléchir sur ce qui va un peu de travers, ou beaucoup. Et on s'interroge aussi sur les conséquences sanitaires, économiques, éthiques, sociales. Je ne vais pas m'étendre. C'est l'objet des réunions que nous avons eues et que nous avons encore pendant ces deux jours. Nous constatons, c'est un constat, je crois, partagé très largement dans tous les pays qui se préoccupent de ce genre de choses, que la mondialisation et les pratiques des firmes multinationales de la pharmacie sont mises en cause. Il y a trois semaines, quatre semaines, avec deux d'entre nous, j'ai le grand honneur d'être invité à une réunion qui avait lieu en Tunisie, à Sousse. Et nos collègues tunisiens invitaient les médecins maghrébins à s'interroger sur le fonctionnement des systèmes de santé. Inévitablement, leurs préoccupations, non pas parce que nous étions présents, mais parce que c'était une préoccupation qu'ils avaient en dehors de nous, étaient des préoccupations qui se recouvraient largement les nôtres. Parce que, bon, comme vous savez, la Tunisie est un pays qui a évolué historiquement dans les quelques années qui viennent de s'écouler. Et c'est à ce moment-là, quand on repense ce que l'on doit faire du futur, qu'on se rend compte combien il y a de chemin à faire. Tout à l'heure, c'est ce que disait aussi le président du Conseil de l'Ordre, qui disait qu'il y avait à réfléchir sur ce genre de questions. Par ailleurs, dans une période où on nous demande d'avoir une pratique d'austérité, un mot qui est très à la mode et qu'on voit dans tous les médias aujourd'hui, évidemment, quand on parle de surmédicalisation et tout ce qui l'accompagne, on pourrait, dans un langage commun, appeler du gaspillage. Hein, quand on pense que peut-être 30% de l'activité médicale n'a pas d'objet, si on y regarde de près, et ne joue pas au bénéfice des patients, quand ça ne joue pas à leur détriment, évidemment, on se dit, mais on nous parle continuellement de la pénurie. 30%. Imaginez que par une politique à la fois audacieuse et inventive, on soit capable de réduire ne serait-ce qu'à 20%. Si on libérait 20% des moyens mis à la disposition des services, du service de santé, que ne pourrait-on faire qu'aujourd'hui on ne sait comment parvenir à faire, sauf par des bricolages qui sont toujours au détriment des patients. Et ceci suscite des réactions diverses, qui aujourd'hui dépassent le cercle un peu académique d'une réunion comme la nôtre. Les médias scientifiques, la presse grand public, donnent des informations nombreuses et précises. En Grande-Bretagne, un journal comme le British Medical Journal, aux États-Unis, un journal destiné au grand public, le New York Times, en France, un journal destiné aux médecins, prescrivent, contribuent à la mobilisation des citoyens et des professionnels. D'abord des professionnels, et puis ça rebondit sur l'ensemble de la population, alors souvent sous des aspects anecdotiques, souvent sous des aspects événementiels pas très intéressants. On se moque un peu de savoir si un conseiller de tel personnage a pu un jour être... Alors, tout ça est anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière l'anecdote, il y a des choses qui nous concernent et qui concernent l'ensemble de la population. Des livres multiples sont publiés, traduits dans d'autres langues. On traduit en français des livres qui ont été publiés dans le monde anglo-saxon. On traduit en anglais parfois, pas souvent, des livres qui ont été écrits en français. Et puis, parce que nous regardons ce qui se passe, et nous ne sommes pas les seuls à le faire, les regards se croisent avec des gens qui, dans d'autres pays, ont des préoccupations proches. La venue pour 24 heures d'Yanaïs pour participer à vos travaux est une preuve qu'il y a là un intérêt partagé. Et nous ne manquons pas de faire savoir sur notre site que une réunion s'organise à Oxford à laquelle certains d'entre vous pourraient très certainement avec profit participer. Au sein de ce réseau qui est en train de se construire lentement, peut-être pas lentement, pas si lentement que ça, on s'intéresse aux conflits d'intérêts dans les systèmes de santé, à la publication des résultats occultés des essais cliniques qui font qu'on sait plus très bien ce qui est digne de foi et ce qui ne l'est pas. Hein, nous pensions que la médecine fondée sur les preuves, l'evidence-based medicine, était le résultat d'efforts qui nous permettaient enfin de fonder nos savoirs sur un socle très solide. Et puis on nous dit, mais vous savez, les méta-analyses sont faites à partir des analyses et lesquelles analyses ne sont pas toutes aussi fiables les unes que les autres. Voilà un problème sur lequel il faudra sûrement réfléchir. La validité en question des opérations de dépistage, je passe évidemment, nous avons passé un certain temps aujourd'hui à en parler. L'étendue du disease mongering, bon, la création souvent artificielle de maladies à des fins qui ne sont pas nécessairement l'intérêt des malades. On a toujours inventé des maladies, et les maladies ont une histoire, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Hein, bon, insuffisance hépatique chère aux Français des années 40, 50, 60, s'est évanouie dans le passé. Mais elle avait bien été créée un jour. Alors, on peut mettre en cause les gens qui vous proposaient de faire des cures thermales, des choses comme ça, et pour ça, il était mieux d'en avoir besoin. Les multinationales face à la justice. Alors, ça n'est pas que les anecdotes. Quand on s'aperçoit que ces grandes entreprises qui parlent fort, qui sont même parfois souvent les seules à parler, directement ou indirectement, à travers les porte-parole qui elles ont liées des liens d'intérêt. Ces grandes entreprises sont souvent, de plus en plus souvent, traduites en justice. Parce que ce qu'elle raconte n'est pas seulement opportuniste et commercial, mais que c'est aussi mensonger. Et songer que l'une d'entre elles, la plus grande, a eu à régler une amende de 4,5 milliards de dollars. Alors, les amendes de ce genre, il n'y en a pas souvent. Hein. Même le monde pétrolier, manipule des sommes importantes, est rarement mis en situation d'avoir à faire face à la justice dans ces conditions-là. Évidemment, on s'interroge. Sont-ils des industriels de la pharmacie ou sont-ils des drug dealers? C'est quand même préoccupant. Nous nous sommes intéressés à la futilité et où aux risques induits par les médicaments trop mal prescrits. Tout ça, vous l'avez vu. Et ça, ce sont des considérations très largement partagées par nos collègues dans d'autres pays. Nous nous intéressons à une liste restreinte de médicaments essentiels. Ça, c'est peut-être une des spécificités de notre groupe, d'avoir choisi cette cible, cet objectif. Mais nous espérons bien que... décrivant dans des rencontres comme celle-ci, nous pourrons avoir d'autres partenaires ailleurs qui s'intéressent à ça aussi. L'obligation d'une politique de données ouvertes, ça ne veut rien dire en français, open data, ça commence à devenir quelque chose qu'on connaît, bien conçu et généralisé, sera reprise tout à l'heure par Jean-François Mazoyer, qui a une proposition à nous faire. Il faut qu'on se dise, et ça va presque être ma conclusion, que nous sommes dans la première étape d'un processus dont nous voyons encore mal le devenir. La somme des données disponibles aujourd'hui est suffisante pour que nous dépassions le simple ou les simples constats et la concertation. Nous n'avons pas fini de nous concerter, il y a encore beaucoup de choses à constater, mais nous devons penser dès à présent à aller au-delà de simplement cet échange. L'échange est nécessaire, c'est une première étape, mais il faut commencer à réfléchir aux étapes suivantes. Quelles que soient les causes, les phénomènes sont multidimensionnels, les enjeux considérables. Les enjeux considérables, c'est pas seulement le gaspillage qu'on pourrait réduire, c'est pas seulement, c'est aussi le gaspillage des vies parfois, faire du médiator est une bonne illustration de ce qui a pu se passer, mais vous savez bien, comme tout le monde, que le médiator, c'était un médicament parmi d'autres qui ont fait des dégâts. Il y a d'autres médicaments qui ont fait des dégâts encore beaucoup plus considérables, peut-être moins que dans d'autres pays, mais enfin. Et c'est probablement encore le cas pour des médicaments sur lesquels nous ne savons pas tout loin. Alors, nous savons que... il y a et il y aura des adversaires puissants et déterminés face à lui. Donc nous ne pouvons prétendre agir sur tous les fronts. Il va falloir choisir. Et ça, c'est un travail collectif. Et c'est peut-être un des objets sur lesquels nous allons discuter au cours de cet atelier. Les choix politiques devront être clairs et compréhensibles aux professionnels et aux citoyens. Ça n'est pas une discussion réservée exclusivement aux professionnels parce que si nous commettions l'erreur de refermer le débat entre nous, d'avance, nous pouvons dire que nous n'irions pas loin. C'est seulement si nous partageons ces préoccupations avec les citoyens, qu'ils soient patients, qu'ils soient de famille de patients, qu'ils soient bien portants, ce sont des problèmes qui nous concernent tous. Dans chaque pays, ils seront adaptés à des situations et des systèmes sanitaires différents. Nous allons devoir faire des propositions favorables à la santé des personnes et de la population, aussi bien qu'aux revenus des personnels de santé. Je crois qu'il est intéressant de réfléchir à lier ensemble les économies qui seraient éventuellement conséquences d'une meilleure politique face à la surmédicalisation, au diagnostic et au surtraitement, avec l'utilisation qui pourrait être faite des économies réalisées. Et je pense que ça n'est pas seulement parce que charité bien ordonnée par les personnels, je ne pense pas aux revenus des médecins en priorité, mais je pense que l'ensemble des personnels de santé font partie des personnes qui doivent être conscientes que leur situation et leurs intérêts sont communs avec la situation et les intérêts des patients, et qu'il faut lier les deux. Enfin, et c'est le dernier mot, réduction des inégalités sociales et géographiques de santé est bien entendu un objectif de première dimension. Voilà, maintenant, je vous ai fait une introduction un peu longue parce que je crois qu'il est intéressant qu'on essaye de voir le cadre dans lequel nous allons discuter. Et je voudrais demander à Luc Perrineau de venir pour faire sa présentation, dont il dira le titre, qui est un peu mystérieux, un peu de mystère sié aux bonnes choses. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Voilà.
Voilà. Une bonne chose sur les autres. J'avais pas bougé. Voilà, donc on a parlé du vécu, des maladies virtuelles et des grossières. Donc, je vais traverser les époques dans cet atelier. Je refais toute la nosologie médicale. J'ai reclassé toutes les maladies. Hein. Voilà, c'est un nouveau cours de nosologie. Donc il y a trois types de maladies, les maladies réelles, les maladies virtuelles et les maladies potentielles. Alors je suis bien incapable de vous définir ce que sont les maladies réelles, mais je suis tout à fait capable de vous définir ce que sont les deux autres maladies. Alors je ne suis pas capable de vous définir les maladies réelles, par contre je vais prendre une définition opportune pour cet exposé. Pour cet exposé, on va convenir que les maladies réelles sont celles qui sont initiés par un instant clinique dont le patient est l'origine. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est-à-dire qu'elles ont démarré par une plainte, une souffrance ou une demande du patient, lequel patient s'est retourné vers la médecine, laquelle médecine peut éventuellement établir une corrélation entre la plainte du patient et les données biomédicales. Donc, initié par le patient. On va appeler ça les maladies réelles. C'est une définition provisoire. Les maladies virtuelles, je peux vous les définir avec beaucoup plus de précision que les premières, puisque les maladies virtuelles, ce sont celles qui sont initiées par la science biomédicale. L'initiateur n'est pas le patient, c'est la science biomédicale qui informe le patient qui, lui, n'en sait rien, qui vivait heureux jusqu'à ce jour, qui vivait sain, qui a une maladie donc qui est pour lui virtuelle, forcément. Elle est réelle pour les sciences biomédicales, elle est virtuelle pour le patient. Et il y a enfin un troisième type de maladie qui sont les maladies potentielles. C'est donc toutes celles que vous êtes susceptibles d'avoir au cours de votre existence, que vous aurez forcément, la plupart d'entre vous, d'entre nous, un jour au cours de leur existence, mais que pour l'instant, ni la science biomédicale, ni la clinique initiée par le patient ne sont capables de prédire ou de prévoir. Est-ce que ces trois chapitres de la nouvelle nosologie vous paraissent clairs? Voilà. Je peux donc continuer en essayant de dire quelle a été dans l'histoire et quelle va être dans l'histoire le pourcentage, j'ai mis un petit pourcentage avec un point d'interrogation sur le diapo, de ces maladies. Alors, en tant que médecin très féru de biologie, je peux dire que les maladies réelles, donc celles que je viens de définir comme réelles, ont un pourcentage assez constant dans l'histoire du monde vivant. C'est-à-dire que tous les animaux, nous sommes des animaux, surtout les animaux complexes, on va dire, sont porteurs, toutes les espèces sont porteurs d'un pourcentage de maladies réelles, donc initiées par l'animal, par l'être, par l'individu, et ça varie, alors là c'est très grossier ce que je vais vous dire, entre 5 et 20%, ce qui est le prix que
que nous payons à la complexité. Il y a toujours dans une population, dans une espèce, toujours, vous le savez, pose là, on a 5 à 20% de maladies réelles, de gens, d'individus qui ont quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas normal ou qui les empêche de vivre normalement. Ce pourcentage n'a pas varié au cours de l'histoire du monde vivant et il y a fort à parier qu'il ne changera jamais. Et il y aura toujours que 5 à 20% de maladies réelles. Les maladies virtuelles. Donc celles-là, comme vous pouvez vous en douter, c'est ce que l'on dit depuis ce matin, sont en croissance très forte, puisque c'est celles qui sont initiées par le monde biomédical, par la connaissance biomédicale, et que cette connaissance va en augmentant, ce qui a des bons côtés et des mauvais côtés, comme on l'a dit ce matin, mais donc le nombre de maladies virtuelles dont le patient ignore tout, mais dont la science biomédicale a la certitude qu'elles existent, c'est une croissance exponentielle. Donc on peut dire en gros, alors là aussi ce que je vous dis, pardonnez-moi, hein, c'est qu'il y en avait de ces maladies biomédicales, on va dire 1 ou 2% à la fin du 19e siècle, mais qu'aujourd'hui elles sont largement prédominantes et qu'il y en a au moins dans la population 20, 30, 40, voire 50%, hein, qui sont décrétées. Le patient qui a un cancer post-cellulaire, on ignore tout. Le patient qui a une hypertension, donc considérée comme hypertension à 16,9, on ignore tout. Le patient qui a un taux de glycémie supérieur à 1,40, on ignore tout. Ça ne change rien à son quotidien, mais il a bien une maladie définie par le monde biomédical. Donc les maladies virtuelles, elles ont une définition finalement beaucoup plus claire que celui des maladies réelles. Maintenant, on va parler des maladies potentielles. Alors les maladies potentielles, c'est un chapitre très intéressant, puisque, on en parlera peut-être après, on parlera de maladies plus particulières, c'est celles dont nous allons mourir. Hein, nous allons mourir, alors, de ces maladies, tous. Donc, ces maladies potentielles existent, elles sont inscrites, puisque si l'on parle toujours en termes de biologiste, la longévité spécifique, ce qu'on appelle la longévité spécifique, c'est la longévité caractéristique d'une espèce, nous sommes porteurs d'une information de longévité spécifique en tant qu'Homo sapiens, et nous sommes aussi porteurs d'une information de longévité individuelle en tant que monsieur un tel de chez Homo sapiens. Cette longévité est inscrite dans nos gènes, dans nos facteurs de prédiction de nos allèles et de nos haplotypes, elle est inscrite dans nos anomalies invisibles, métaboliques, et c'est bien de celles-là que nous allons mourir. Donc, si l'on fait le pourcentage des maladies potentielles, il n'y a aucun doute possible, 100% de la population est atteinte d'une maladie potentielle. Nous sommes d'accord là-dessus? C'est certain. Donc, c'est bien les maladies qui, d'un point de vue du commerce médical, sont les plus intéressantes, puisque ça touche 100% de la population, ce qui représente à notre connaissance un marché de 7 milliards d'individus. Vous êtes bien d'accord? Infiniment plus important que les 10% de maladies réelles qui n'ont strictement aucun intérêt. Vous avez bien compris jusque-là. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition d'une maladie réelle telle que je l'ai dit avant? Ma définition étant évidemment contestable, j'accepte. Mais qu'est-ce que c'est qu'une maladie réelle? Alors, j'ai emprunté ceci à Alain Froment, j'ai mis son nom en tout petit. Alain Froment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un épistémologiste de la médecine qui, à mon avis, vaut largement notre ami Canguilhem. Il est plus moderne parce qu'il a vécu après, il a intégré dans son épistémologie de la médecine et du soin, il a intégré toutes les données de la médecine moderne que n'avait pas pu intégrer Canguilhem puisqu'il a vécu avant l'avènement de la médecine moderne. Et cet épistémologiste Alain Froment dit qu'une maladie réelle, donc dont l'initiation est clinique, tous les symptômes que vous avez appris à la fac de médecine se résument à ces trois. J'essaie de formaliser ma pensée, vous voyez bien. Vous avez soit une douleur, soit une impotence fonctionnelle, soit une limitation des projets de vie, soit les deux, soit les trois, soit un seul. Douleur, je ne vais pas décrire ce que c'est que la douleur, tout le monde en a fait l'expérience une fois dans sa vie, physique, morale. L'impotence fonctionnelle, ça va de la poussière dans l'œil à l'éternuement jusqu'aux deux jambes, jusqu'à la tétraplégie. Hein. Tout ça, c'est de l'impotence fonctionnelle. On ne peut pas tout faire ce que l'on fait habituellement quand on a une poussière dans l'œil. C'est donc une impotence fonctionnelle. Et la limitation des projets de vie, eh bien, c'est les patients qui ont par exemple une maladie comme le daltonisme ou l'épilepsie, où certaines carrières leur sont définitivement fermées. Donc ils n'ont rien. Celui qui a une épilepsie généralisée qui ne fait qu'une crise tous les deux ans n'est pas très malade, mais il a une limitation de ses projets de vie, nous sommes d'accord. Il n'existe pas de maladie réelle autre que celle qui rentre dans ce cadre-là. Donc là, j'allais dire, c'est la médecine, celle qu'on a appris à la faculté. Nous sommes d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis, on va dire, un siècle? Il n'y a que trois situations possibles que nous vivons tous les jours dans nos cabinets face à nos patients. Il n'y a que trois cas possibles. Soit, d'autre part, là, je reviens à la même idée, à la plainte initiale du patient. Parce que c'est quand même, comme disait Coguilhem très bien, ce n'est pas la médecine qui a créé le patient, c'est bien le patient qui a créé la médecine. Donc c'est bien de lui que tout part. Donc, le patient vient avec une plainte, quelle qu'elle soit, une de ces trois plaintes dont je viens de parler d'avant, et la médecine, la science biomédicale actuelle, a quelque chose à mettre en face de cette plainte. C'est le cas idéal. C'est le cas idéal. Nous avons, vous avez ceci, je vous propose cela, et les deux, le tenon et la mortaise rentrent ensemble, tout va très bien, c'est les succès médicaux. Hein. Voilà, j'ai une appendicite, je perds l'appendicite et je guéris le patient, j'ai ceci, j'ai cela. Et donc, c'est la médecine idéale. Hein. Nous sommes dans le cas de la médecine idéale. Et puis, il y a le deuxième cas qui est plus fréquent et nous sommes tous assez impuissants là-dedans, c'est les souffrances et plaintes réelles où la science biomédicale n'a rien à coller en face. Bon. Alors, ça a commencé avec la ENEC et sa méthode anatomo-clinique. Hein. Il a dit, voilà, les maladies, elles ont une correspondance, les symptômes cliniques ont une correspondance anatomique. Et tout ce qui n'est pas anatomique est fonctionnel. De là vient le mot très méprisant de fonctionnel que nous attribuons à tous nos patients pour lesquels notre science ne sait pas quoi dire. Ça va en diminuant, le fonctionnel diminue, parce que la connaissance augmente, mais vous êtes témoin, ceux qui exercent, que c'est quelque chose de très fréquent. Que va-t-on faire de ce patient? Alors on invente des pathologies, c'est le disease de Mongering, on invente des pathologies, la fibromyalgie et tant d'autres, la spasmophilie, on invente, peu importe. Mais c'est donc un cas de figure qui est fréquent. Et puis, il y a un troisième cas de figure, qui est au cœur de notre congrès d'aujourd'hui, c'est les propositions biomédicales, donc c'est la biomédecine qui propose à un patient quelque chose, voilà, je vous offre cette maladie, mais lui n'a rien, n'a pas de souffrance, pas de douleur, pas d'impotence fonctionnelle, pas de limitation de projet de vie, et on vient lui proposer une maladie. Alors ça, c'est très important, et pourquoi ça est arrivé, finalement? Mais moi, je crois qu'il faut faire de l'histoire, toute bête, il faut faire de l'histoire, de la sociologie, de la politique. Ceux qui ont fait un peu d'économie, peut-être il y en a parmi vous, ou qui ont des gens qui font de l'économie, il y a eu un passage de l'économie de la demande à l'économie de l'offre, qui a été très nette au cours du XXe siècle, du marché de la demande au marché de l'offre, du marketing de la demande au marketing de l'offre. Pourquoi, je vous pose cette question, pourquoi la médecine, qui est une discipline exercée par des humains pour des humains, aurait échappé à ce changement sociétal énorme qui a consisté à passer de la demande à l'offre? Pourquoi la médecine y aurait échappé? Il n'y a aucune raison. Et la médecine est rentrée là-dedans. On peut évaluer, en gros, c'est-à-dire dans les années 70 que ça a été culminant, ce changement de la pensée économique, la médecine au milieu du XXe siècle est passée d'une médecine de la demande à la médecine de l'offre. Donc, nous avons ces propositions biomédicales, ces maladies de l'offre, qui sont en augmentation énorme et constante. Alors, donc je vous ai présenté le scénario, l'histoire qui s'est produite dans la société. Et donc, puisque nous proposons des maladies à nos patients, ils les reçoivent, hein, comme tel. Ils reçoivent le mot diagnostic, ils le prennent à leur compte ou pas, d'ailleurs, ça dépend de la personnalité, mais la plupart du temps, ceux en tout cas qui viennent dans les cabinets médicaux, pardon, les reçoivent et les prennent à leur compte, et donc ils vont vivre ces maladies de l'offre, ils vont vivre ces maladies qu'ils n'ont pas, mais ils vont les vivre après le mot diagnostic. Et donc, ils vont les vivre d'une certaine façon. Et donc, nous avons créé de toutes pièces, un vécu morbide, nous sommes d'accord. Nous avons créé un vécu morbide. Alors comment vont-ils vivre ces maladies qu'ils n'ont pas? Eh bien, ils vont les vivre de façon... Alors là, ma diapo est très parlante, les diapos sont toujours très simples, inférieur égale ou supérieur. Qu'est-ce que c'est que le vécu secondaire morbide d'une maladie virtuelle ou potentielle? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose sur lequel j'ai longtemps travaillé au cours de mon exercice, et j'ai constaté... J'ai d'abord pensé au départ, quand j'étais jeune, que ce vécu morbide était inférieur en souffrance au vécu morbide d'une maladie réelle. Je l'ai pensé, je l'ai cru, je me suis dit c'est finalement pas grave de dire à quelqu'un qui est hypertendu, qui a un peu de sucre. C'est ce que je croyais, c'est ce que je... Et puis, avec les années qui ont passé, comme nous tous peut-être, j'ai constaté, j'avais fait un papier sur lequel je disais que le vécu secondaire de ces maladies virtuelles avait une morbidité équivalente, aux maladies réelles. C'est-à-dire que le cancer dépisté a un vécu morbide équivalent au cancer diagnostiqué. C'est-à-dire que la boule dans le sein perçue par la patiente entraîne un vécu morbide secondaire, mais la patiente qui n'a jamais rien perçu et à qui on a dit qu'elle avait un cancer in situ a un vécu morbide équivalent. C'est ce que j'ai longtemps pensé. Et j'ai découvert, plus récemment, et là je vous demande de le vérifier dans votre pratique clinique, que souvent, pas toujours, le vécu morbide des maladies virtuelles est supérieur au vécu morbide des maladies réelles. Donc là, ça devient un peu plus grave. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous aider à comprendre. Vous avez tous vu ça dans vos cabinets. On va parler du cancer du sein, puisqu'on en a beaucoup parlé. La patiente qui a un jour senti une boule dans son sein, un ganglion sous son bras, qui est allée voir le médecin. Elle a touché son cancer. Elle l'a vécu et elle est allée voir le médecin. Qui l'a traité, qui l'a fait passer, qui lui a dit qu'il allait bien guéri, peu importe. Et elle va très bien. Et cette patiente-là, elle sait ce que c'est d'avoir le cancer du sein. Quand elle va sentir une deuxième boule dans son sein, dans ce sein-là ou dans l'autre sein, hop, son esprit va se mettre en éveil. Mais si elle ne sent rien dans aucun du sein qui lui reste ou des deux seins qui lui restent, elle considérera qu'elle est guérie, que la médecine est bien traitée et elle va vivre relativement sereinement. La patiente qui n'a pas eu d'expérience clinique préalable, qui n'a jamais senti une boule dans son sein, à laquelle on a dit « Vous avez un cancer du sein », elle n'a aucun repère clinique pour savoir quand est-ce qu'elle va faire le suivant. Elle est beaucoup plus anxieuse que celle qui a senti la boule dans son sein. Donc le vécu morbide, secondaire, une maladie virtuelle est parfois plus grave. Reprenons un autre exemple, j'espère que vous avez bien compris si vous êtes cliniciens. Reprenons un autre exemple. Le bronchitique chronique, qui ne peut pas monter 5 marches d'escalier, qui est essoufflé du matin au soir, il n'est pas du tout inquiet. Quand on le voit, nos médecins, il vient de cabinet, on est affolé, mais comment vous faites pour simplement vivre? Non, non, vous inquiétez pas, docteur, tout va bien. Vous inquiétez pas, docteur. Je m'en sors, j'ai pris l'habitude, je fais doucement. On est complètement stupéfait de voir des gens qui ont une maladie gravissime vivre leur maladie avec une certaine sérénité. On est beaucoup plus inquiet de nous que eux. La personne à qui vous avez décrété qu'elle avait un début de BPCO ou d'asthme, dont vous parliez, 30% d'excès d'asthme, qui ne sait pas ce que c'est d'être essoufflé, mais on lui a dit qu'elle avait de l'asthme, de BPCO, il va être hyper inquiet le jour où il aura monté ses escaliers un peu vite, parce qu'il ne sait pas si c'est une décompensation brutale de sa maladie. Donc on a un vécu morbide de maladie virtuelle souvent plus grave. Je donne des exemples uniques à dessein, puisque nous les avons vécus, simplement nous, parfois, nous ne prenons pas le temps d'en faire l'analyse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est là que c'est important. Alors, bon, ça, c'est peut-être un chapitre que je... Oui, on va quand même en parler, mais je reviendrai à ça après. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le médecin est devenu créateur de morbidité. Est-ce que nous sommes d'accord? Créateur de morbidité. Est-ce que lorsque vous avez fait vos études, vous avez fait des études pour être créateur de morbidité? Je ne pense pas. Donc, c'est terriblement douloureux de découvrir que l'on est créateur de morbidité alors qu'on avait choisi un métier où on voulait précisément diminuer la morbidité. Je trouve ça très lourd. Donc on peut dire, je repasserai après à la suite, on peut dire que finalement la médecine d'aujourd'hui, du XXIe siècle, de l'aube du XXIe siècle, est une médecine qui a un échec téléologique, pardonnez-moi ce mot savant, la téléologie c'est la science du but, hein, le but étant de diminuer la morbidité, la médecine est en échec téléologique certain. Par contre, la médecine a un succès commercial indubitable, puisque nous avons 100% de maladies potentielles à nous mettre sous la dent encore pour notre marché. Alors, ça c'est très important, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes créateurs de morbidité? Eh bien, nous sommes créateurs de morbidité pour des raisons qui sont tout simplement évidentes en termes de marché et de commerce. Les acteurs qui se rencontrent, il faut bien savoir que la population qui fréquente notre cabinet, n'est pas le reflet de la population générale. Ceux qui acceptent, c'est 52% je crois pour le cancer du sein, je crois combien, ceux qui acceptent de faire le dépistage sont bien des patients qui sont les clients captifs de ce marché de la maladie potentielle. Et ils rencontrent les acteurs de ce marché en face, qui sont les médecins. Donc nous avons bien une rencontre entre un consommateur et un marchand qui est tout à fait satisfaisante pour les deux parties. Parce que le patient qui fait un dépistage est satisfait, soit qu'on ne le trouve pas, soit qu'on le trouve et qu'on le guérisse définitivement. Donc il y a bien un marché, rencontre de l'acteur et du consommateur, nous sommes dans une logique de marché. Bien sûr, le paiement à l'acte, dont on ne parle pas assez souvent, est le plus grand facilitateur de ce marché, d'autant plus que, comme vous le savez, ce paiement n'est pas réalisé par le consommateur, mais il est réalisé par un tiers payant, donc c'est encore plus facile pour le marché. J'imagine le marché de l'automobile qui est un tiers payant, vous imaginez un peu. Comme ce serait merveilleux pour le marché de l'automobile, qui n'aurait pas traversé la crise qu'il vient de traverser. Voilà. Et un troisième acteur très important qui sont les États, qui, comme vous le savez, on le découvre de plus en plus, ne peuvent plus se passer du PIB, puisque le PIB est le seul moteur de la politique. Et dans les pays de l'OCDE, les industries sanitaires représentent 11% du marché, du PIB total des pays, autant, sinon plus, que des grands marchés comme l'énergie, l'automobile, etc. Donc aucun État ne peut se passer du PIB de l'industrie sanitaire. Aucun. Ils ne peuvent plus, c'est trop tard. D'ailleurs, les facultés de médecine ont entièrement intégré ces données, et leur but avoué, moi ça m'a été avoué par un doyen, leur but avoué n'est pas de produire du soin, leur but avoué est de produire de la médecine pour être compétitive dans le marché mondial de l'industrie sanitaire. C'est le but avoué des facultés de médecine, par ailleurs subventionnées par vos impôts. Voilà. Donc, je tenais à dire que, bon là c'était le petit aspect économique amusant, on va dire, mais il y a pour moi quelque chose de plus grave, et que sur lequel nous devons réfléchir beaucoup, je crois que c'est que nous sommes des créateurs de morbidité. Voilà, je vais terminer là-dessus, je vous remercie.
Jean-François, vous voulez venir nous parler de l'initiative Transparence Santé. Voilà. Je laisse.
Aurais-tu une BPCO?
Non, je suis une neuropathie.
Bon. Pour la consultation, ce sera tout à l'heure sur rendez-vous.
Voilà, j'évite la médecine. Dans les conditions qui sont les miennes, et qui ne s'évite pas à ce point.
Créateur de morbidité.
Oui, non.
Je dis, il faut éviter la médecine, créateur de morbidité.
Oui, d'autant plus que pour ce qui est de bière, une maladie virtuelle, ça va être un peu compliqué.
Oui, c'est vrai que c'est.
Alors,
c'est un peu déplacé.
Je ne suis pas dans mon univers.
Extrêmement pertinente sur le plan politique et social et tout à fait cohérente avec la majorité des objectifs que nous poursuivons, qui ne sont pas si nombreux au Liban. Donc j'ai intitulé ces quelques mots « Princeps au pays des data » parce qu'on rentre dans le domaine de la manipulation des données très volumineuses. L'initiative Transparence Santé, est-ce qu'elle peut être... Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est quelque chose que nous devons considérer avec la plus extrême méfiance? Ou est-ce que c'est une opportunité pour le combat que nous menons? Est-ce que c'est la première opportunité d'avoir quelque chance, non pas de l'emporter, mais d'équilibrer le combat contre le côté obscur de la force? C'est-à-dire Big Pharma, l'invention de maladies, tout ce qui est en œuvre actuellement et dont on parle habituellement lors des colloques de Bobigny et aussi dans nos échanges. Et est-ce que dans ces conditions, il est opportun d'engager une démarche préliminaire de contact, éventuellement prudent, informatif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiative Transparence Santé ? J'imagine que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est ou en ont entendu parler. C'est un collectif citoyen d'acteurs du système de santé, représentants d'usagers. Il y a 6 en particulier, donc il y avait des représentants enfin, qui sont là aujourd'hui, Claude Rambaud notamment, de chercheurs en économie sociale, des journalistes du même domaine, des assureurs du même domaine, mais des assureurs qui ne sont pas des grands acteurs, mais des gens comme certains qui agissent comme experts pour les assurances, des entrepreneurs dans le domaine de la santé, des consultants. Et ce collectif est né publiquement le 24 janvier 2013 du concept que les données sanitaires en France sont inaccessibles à la société civile. C'est évidemment l'affaire des médiateurs et le refus de l'assurance maladie et de la ministre de communiquer les données concernant cette affaire qui ont constitué le facteur déterminant de l'intervention publique d'initiative Transparence Santé, avec le raisonnement de la part de l'assurance maladie et de la ministre que ces données nous appartiennent, donc on s'assoit dessus et on nous emmerde. Ces données nous appartiennent, ce qui est un peu scandaleux, puisque ce sont les dossiers des patients qui sont par ailleurs tous des citoyens. Et la ministre a tenu le même raisonnement, bien entendu, carrément d'imagination, vous l'aviez déjà observé. L'initiative Transparence Santé, dès lors, a poursuivi son chemin avec détermination et elle a introduit un recours devant la commission d'accès aux documents administratifs, qui est une instance qui existe depuis assez longtemps, depuis les années 80, il me semble, en France, et qui est en mesure d'imposer à des organismes publics l'ouverture de leurs dossiers ou la communication de pièces. Et l'ACADA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a intimé à l'assurance maladie l'ordre de d'ouvrir ces données à l'initiative.
C'est quoi l'ACADA?
C'est la commission d'accès aux documents administratifs.
C'est en jaune.
En jaune, c'est intégral. En noir, c'est... donc, elle a dit, mais l'initiative a raison, la CNAM doit communiquer ses données. Et dès lors, l'initiative a pris de l'ampleur. Elle a eu droit à un papier dans le monde. Elle a eu... en particulier la possibilité d'être auditionné ou audité, comme vous préférez, par une commission ad hoc du Sénat en février dernier, avec une mission conjointe du CIS et de l'initiative. Et je vous conseille vivement d'aller sur cette adresse vidéo, tout sera sur le site, bien entendu. Ça dure un peu moins d'une heure et demie, 72 minutes. Et vous verrez intervenir tous les gens qui sont nommés en dessous, qui ont tous des choses intéressantes à dire. Jean de Kervazoué, je pense que vous êtes nombreux à le connaître, c'est un économiste de santé qui a un certain opportunisme, mais qui connaît très bien le système et qui l'explique bien. Comment ?
Il est fait un bouquin sur la médecine.
Oui,
donc, au départ, il disait voir la médecine française, le système français est un peu. Mais qu'il préfère se faire soigner en France. Il était malade, il connaît.
Oui, bah, je sais ce que bon, pensons par
Continue. On discutera tout à l'heure.
Oui. Donc, il y a Jean de Kervazoué, une représentante du CIS, qui donc, représente la voix des usagers. Et qui travaille également, qui est représentante du CIS à l'Institut des données de santé. Patrick Guérin, qui dirige une entreprise privée, mais qui est prestataire de services pour l'État, notamment. Des journalistes, Didier Sicard, que vous connaissez tous, Et donc, tous ces gens-là se sont exprimés de manière tout à fait pertinente sur pourquoi il faut ouvrir les données, pourquoi c'est un facteur de santé dans la gestion du système et dans les rapports du système avec les patients et donc les citoyens. Parce qu'il faut savoir, c'est que le SNIRAM, qui est la base de données de l'assurance maladie, est une des plus grandes bases de données mondiales en France. On n'est pas le plus grand pays du monde, mais on a beaucoup de choses qui sont les plus grosses du monde, comme l'EDF ou la SNCF, parce qu'on a une concentration étatique considérable. Ben, le SNIRAM, c'est un peu ça. C'est 1,2 milliard de feuilles de soins gérées par an pour la médecine privée. 1,2 milliard. Donc vous vous rendez compte du nombre de données. Est-ce que l'initiative a approché à la CNAM à ce propos? Est-ce que d'autres l'ont approché de cette gestion faite de soi? C'est de ne pas avoir utilisé ces données pour prédire la catastrophe du médiateur. Ou bien d'autres, d'ailleurs, comme tu le rappelais tout à l'heure. Pour autant, donc, le constat était fait que l'accès aux données de santé n'était pas assuré, n'est toujours pas assuré. La CADA a donné raison pour le cas particulier, mais c'est pas fini. Et quels sont les plus grands opposants à l'ouverture des données, à côté du ministre et de l'assurance maladie? Ce sont les médecins, organisés de manière corporatiste. Les syndicats médicaux, par exemple, sont les plus déterminés des opposants à l'ouverture des données et à leur exploitation.
Des syndicats médecins.
Alors, ce secret médical est tourné, parce que le secret médical n'est pas fait pour protéger les médecins, il est fait pour protéger l'intimité des patients. Ce secret détourné, qui a été également allégué par notre ministre, alors qu'il est en réalité pas du tout menacé compte tenu de la qualité de la protection des données, et la liberté de prescription, qui est également revendiquée, vous verrez ça très bien expliqué dans l'entretien au Sénat, Gilles Decoeur et Emmanuel Sicard l'expliquent très bien de manière compréhensible à tous. Secret et liberté de prescription et le refus d'évaluation expliquent tous les mésusages, la plupart des mésusages médicaux qui marquent la pratique médicale des autres pays, qui est un secret des scandales sanitaires. Et on peut rappeler le travail d'une professeure Bégaud qui a témoigné au procès du médiateur et qui parle de 18 000 morts par an liées au mauvais usage du médicament. Alors la crise sanitaire, une passion française, c'est vrai qu'on a le secret des scandales à répétition. Ça peut être la vaccination contre la grippe, le médiateur bien entendu. L'absence de suivi post-AMM en France est une tradition. Malgré la création récente de l'Institut des données de santé, qui reste cependant, et Sicard l'explique très bien, pratiquement dépourvu de moyens pour bénéficier d'une utilisation efficace. Et tout ça aboutit à l'indigence de l'utilisation épidémiologique des données de santé dans la définition d'une politique de santé. Alors, tous ces constats nous sont familiers. Nous n'avons pas, en tant que Balbinien, cet adjectif au moins plus commode pour nous rassembler, le monopole de l'indignation dans ce domaine, mais on peut considérer comme pertinent pour réaliser l'alliance avec les usagers dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, d'un partenariat avec l'initiative de Transparence Santé, qui n'a pas de partenaire médical. Vous l'avez vu dans les documents que je vous ai montré, et pour cause, puisque jusqu'à maintenant les médecins s'opposent à la transparence de manière majoritaire. Donc faire connaissance, prendre la main sur la surmédecine, c'est-à-dire que des médecins parlent au public de la surmédicalisation, et pour qu'on puisse développer une sorte de whistleblowing, d'alerte permanente, en collaboration avec eux. question pour le plus grand nombre. Je vous ai mis en conclusion, en fond d'écran pratiquement, un mail qui a été posté sur notre réseau, qui reprend les caractéristiques des études cliniques, qui elles aussi pourraient bénéficier d'une grande transparence dans la publication des résultats, ainsi que j'avais oublié les données issues du PMSI pour le versant hospitalisé des pathologies actuellement traitées en France. Voilà, je m'arrête.
Merci.
Il faut dire que je plaide pour partenariat.
Oui, mais il faudra plaider tout à l'heure. Je pense que cette discussion doit être réouverte à l'occasion de la plénière tout à l'heure. Et il faudra demander aux participants quelle est leur opinion. De même que nous allons leur poser la question de savoir si notre petite coalition, Princeps, éventuellement ses partenaires, souhaite s'associer à une campagne qui s'appelle All Trials Campaign, qui est aussi une campagne de ce type, mais qui est dirigée sur le caractère public qu'il faut donner aux résultats et aux données de santé établies à l'occasion des essais cliniques. Il s'agit de surmonter l'obstacle que représente l'occultation d'une partie de ces informations. Nous en reparlerons tout à l'heure. On va faire une pause de quelques instants, mais si vous voulez, on peut en profiter en attendant qu'Hélène soit à nouveau parmi nous et qu'elle puisse faire sa communication. Est-ce que vous avez des questions qui commenceraient un petit peu, Omar?
Est-ce que je peux me permettre un témoignage avec beaucoup de prudence et de réserve, parce que je ne veux pas être incompris. Moi, je souscris volontiers à une démarche citoyenne de réappropriation des données en rapport avec sa destinée, naturellement. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas uniquement l'accès aux données chiffrées, quantitatives, détenues par le SNIRAM, j'y reviendrai, mais à l'ensemble des données, y compris les témoignages des citoyens, la parole publique, les faits sociaux, etc. Pourquoi je dis ça ? Dans ma vie professionnelle antérieure, j'ai été directeur adjoint de ce qu'on appelait l'Observatoire des cancers à l'Institut national du cancer à sa création. Ensuite, je suis passé à la direction de la prévention. À l'Observatoire des cancers, notre mission a été double. C'était établir l'incidence, établir la prévalence des cancers en France. Il n'y avait pas de données référentielles partagées. Et l'idée, c'était de créer un domaine public des données pour que l'ensemble de la communauté scientifique, mais surtout l'ensemble des décideurs, puissent accéder un peu à des bases d'aide à la décision un peu partagées. Alors, je vais dire deux mots rapidement. Pour l'incidence, nous avons la source principale, c'est les registres du commerce. Il y en a 23 exactement, 20 spécialisés. Bref, en France, ils coûtent un argent fou et ils donnent une représentation partielle. Ils sont coordonnés par le réseau francilien. Ils ont le mérite d'exister. Et donc, à partir de là, on calcule une incidence estimée annuellement en extrapolant des départements essentiellement ruraux sur l'ensemble de la France. On a essayé de corriger en finançant des départements urbains pour contrebalancer. Bref, la France a la caractéristique d'avoir quelques registres partiels délocalisés. Il y a d'autres pays qui ont un seul registre et d'autres qui en ont principalement par organe, etc. Voilà pour l'incidence. Le vrai casse-tête, c'était la prévalence. Comment calcule-t-on le nombre total des cancéreux en vie, ou ceux qui sortent de la vie, en survie, en fonction de la qualité de la survie, et par organe, par tout ce que vous voulez, par territoire, etc. Et là, on avait très peu de données. D'accord ? Les données de mortalité, elles existent, elles sont bien stabilisées à une réserve, c'est que les causes médicales ne sont pas bien renseignées. La canicule a fait opérer un miracle en France, parce que c'est toujours les morts qui travaillent pour les vivants. La canicule a fait que les données sont en ligne maintenant. C'est-à-dire, avant on attendait 3-4 ans pour avoir les données de l'année N-3, N-4, etc. Maintenant elles sont en ligne et on peut les avoir. Et un quidam peut calculer les données de mortalité par cause, par lieu, par personne, par organe, etc. Données de mortalité, l'INSERM a fait son job. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, il y a un seul problème, c'est la cause médicale de décès et donc le problème de la notification et la manière de la nomenclature et tous les problèmes techniques. Bien. Les vrais problèmes, c'est les questions effectivement de la maladie. La seule source qu'on ait trouvée, c'est le PMSI, le programme médicalisé du système d'information qui a été mis en place, rappelez-vous, les années du sida, pour uniquement établir l'incidence du sida à une période déterminée dans les établissements hospitaliers français. C'est né à partir de là, ça a été étendu sur une base médico-tarifaire, parce qu'au fur et à mesure, on voulait passer de la politique de l'enveloppe à la politique de l'axe en milieu hospitalier, la T2A, d'accord ? Et il fallait calculer l'activité médicale en milieu hospitalier. On a créé le PMSI à des fins médico-tarifaires, alors que le départ était une urgence épidémio-santé publique. D'accord ? On arrive là, et donc on regarde le PMSI inexploitable. Il est toujours difficile d'exploiter a posteriori des données qu'on a collecté a priori dans une autre optique. Quand vous voulez une exploitation qui a du sens, vous êtes obligé de la penser au début pour pouvoir... Bon, ceci étant, ce n'est pas une impossibilité. Mais on rafistole avec.
Oui, mais ça a beaucoup changé depuis.
Je termine, bien sûr. Ça a beaucoup changé, d'ailleurs, dans quel sens, on en redira. Ça a beaucoup changé, ça a été mis au service de la T2A. Voilà, c'est encore plus grave.
Oui, mais
bon. Alors, le SNIRAM, c'est un entrepôt qui regroupe l'ensemble des données des trois grands régimes. Les salariés, les agricoles et les indépendants. Tout le monde.
Et pas les spéciaux, alors.
Mais c'est périphérique. On arrive à l'Institut du cancer, forme notre légitimité, de l'argent et de l'appui du président de la République de l'époque, et on a dit on veut accéder au SNIRAM. L'assurance maladie, elle a dit c'est pas possible. On a dit nous on veut, voilà, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc il y a eu un bras de fer qui s'est terminé politiquement par la victoire de l'Institut du cancer de Chirac. C'est-à-dire qu'on a accédé au SNIRAM. Bien. Alors voilà, les portes s'ouvrent, on rentre, et les portes s'ouvrent, et on rentre. Donc les portes s'ouvrent et on rentre. Alors on a dit, on n'a pas les troupes voulues. On a recruté 25 ingénieurs statisticiens et spécialistes de l'exploitation des données épidémiques. 25, on les a recrutés en l'espace de 6 mois. On a constitué une armée et on revient à l'assurance maladie, on va dire on va s'emparer des données relatives au cancer avec l'hypothèse que tous les malades cancéreux passent par un établissement hospitalier. Donc on en retrouve les traces. Et là a commencé notre aventure. Je ne vais pas m'éterniser, l'aventure est pas gérable. C'est-à-dire que finalement nous nous sommes aperçus que de problèmes techniques en problèmes technologiques, nous n'en finissions pas. Et tout ce qu'on avait produit, c'est de nouvelles estimations avec les mêmes marges d'erreur et d'interprétation, et c'est devenu une histoire de kafkaïenne. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas fantasmer outre mesure sur la qualité, la nature et la signification de ces données. Il faut revendiquer ça comme un droit. Parce que c'est vos données en tant qu'assuré d'un système d'assurance sociale. Mais il ne faut pas fantasmer, parce qu'il y a des limites incroyables. La plupart des données sont des données médico-tarifaires, dont la signification au plan épidémio et santé publique est très limitée. Et le temps qu'il nous a fallu, l'énergie qu'on a déployée pour construire des algorithmes, des cannes à pêche, pour tirer la bonne donnée, puis ensuite de fantasmer dessus à l'infini avec des calculs sophistiqués à n'en plus finir. Entre-temps, heureusement qu'il y a des gens qui se battaient, c'est-à-dire des malades du cancer, des malades des cancers professionnels. On fait avancer plus vite que nous la production de données bricolées, rustiques, significatifs socialement qui permettent de lever le voile, de faire intervenir les partis, de un peu débusquer les liens d'intérêt. Et puis je me suis aperçu, le dernier point, c'est qu'une partie des données disponibles et significatives est confisquée par les hôpitaux universitaires. Les hôpitaux universitaires et chercheurs sont obligés par leur carrière de publier dans un mode concurrentiel individualisé. Ça veut dire que quand j'ai une base de données, je mets la main dessus, je ne la partage pas. Et le combat qu'on avait tenté à l'INCa, qui a échoué, c'était de dire, tant que les données... Non, il faut qu'il y ait une phase d'appropriation du domaine public. Le domaine public s'approprie les données significatives, les publie annuellement, ensuite les chercheurs s'en emparent. Ben, il y a un rapport annuel de l'Institut du cancer qui est produit, ce n'est pas ça le domaine public. Ça, c'est un domaine public orienté. Donc, je voulais juste intervenir pour attirer ton attention sur le fait que, oui, pour une initiative citoyenne, pour rétablir un équilibre dans l'appropriation, mais pas que des données médicales, pas que des données quantiques, mais de l'ensemble des données, en particulier celles des témoignages, des associations, des données quali, etc., pour qu'on puisse ouvrir le débat. Je termine sur un point, il ne faut pas non plus s'illusionner. L'arbitrage ne viendra pas de la donnée.
On ouvrira le débat tout à l'heure. On va demander à Elena de faire sa communication de façon à ce qu'on puisse après avoir une discussion collective. Oui. Elena, si tu veux bien.
Je veux bien.
Quelque part, on fera ça sur public. Et avec ou sans micro, selon. Je lis. Cause et forme de surmédicalisation et sous-médicalisation d'un système allemand de santé, de soins, un exemple à suivre, virgule, vraiment, point d'interrogation.
Ça tient comme ça?
Oui, enfin, tiens-le à la main, peut-être à la bouche, parce que c'est ce qui aura lieu, si ça ne sert à rien.
Je vais peut-être disposer
mes
Alors, si j'ai... On l'entend comme ça, si le micro reste là.
On l'entend.
Donc, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que, déjà, hier et ailleurs, donc il faut voir ce qui se fait ailleurs, selon quelles sont les formes de surmédicalisation et de sous-médicalisation qu'on peut rencontrer par ailleurs. Et avec l'Allemagne, la barrière de la langue est telle que... comprend pratiquement rien. J'ai la chance d'être germaniste, donc ça va de ce côté-là. Mais surtout, à cause de la conjoncture européenne actuelle, donc le poids prédominant de l'Allemagne et le fait qu'on nous donne ce pays, donc en tant que germaniste, je ne devrais peut-être pas avoir cette attitude-là, mais on nous donne ce pays toujours comme un modèle à suivre, et ça commence vraiment à me les casser, si je me permettais. Parce que on ne nous dit pas, en fait, justement, on profite du fait qu'il y a cette barrière de la langue et on ne nous dit pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'on nous dit, il faut suivre l'exemple allemand, voilà l'économie qui se porte bien, voilà des entreprises compétitives, voilà le chômage qui recule, et ainsi de suite. Et nous avons donc Hollande qui fait en ce moment, mais Sarkozy avant lui, hein, avait mis le genou à terre devant Angela Merkel, mais Hollande, ce qu'il fait actuellement, c'est exactement ce qu'avait fait Schröder, donc le chancelier SPD, social-démocrate, Gerhard Schröder, il y a, je sais pas, 15 ans à peu près, quand il avait défini ce qu'il appelait l'agenda 2010, et ensuite mis en place, donc en concrétisation de ce fameux agenda, les réformes connues sous le nom de HARTS. On en est à HARTS 4, et donc ça inclut exactement ce qu'on commence à voir en France, c'est-à-dire tout miser sur la compétitivité des entreprises, la baisse du coût de travail. Donc c'est important de parler de ça avant d'arriver au sujet, parce que c'est quand même... inclus dans le contexte, et la place de la protection sociale va de pair avec la place générale. Donc, De quoi s'agit-il quand on nous dit ben, on va baisser les charges sociales, on va baisser le coût du travail et on va baisser le chômage, on va tout faire pour. Eh bien, en Allemagne, on est arrivé avec les Hartz-IV, qui s'appellent comme ça, c'est-à-dire c'est des gens Hartz-IV, comme on disait, c'est des rentistes, voilà, à des jobs, quand même, ils n'ont pas, ils ont quand même la décence de ne pas parler de travail, mais des jobs à 1 euro de l'heure. Et ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une analyse de gauchiste, voilà, c'est vraiment payer 1 euro de l'heure. Sachant que par ailleurs, effectivement, la protection sociale existe pour aider à payer le logement, voilà, et subvenir, je ne sais pas, aux besoins des enfants, voilà. Mais on est arrivé à ça, et donc à une pauvreté absolument endémique, parce que vous avez donc un taux de chômage bas, mais avec 1 euro de l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, des gens qui sont complètement disqualifiés socialement, une pauvreté donc endémique, et on arrive à une situation qui était celle dans les années 20 et les années 30, donc une disqualification sociale terrible et une casse des solidarités entre les diverses catégories socioprofessionnelles. Et quand on voit aussi la montée des tendances d'extrême droite partout en Europe avec la recherche du bouc émissaire, donc on stigmatise l'immigré, mais on stigmatise aussi le pauvre, on stigmatise le travailleur, on se rappelle ce que disaient les analyses de Siegfried Krakauer dans les années 30 sur les déclassés et sur justement cette rupture de solidarité où les employés estimaient qu'ils n'avaient pas à être solidaires des ouvriers parce qu'ils tiraient toujours vers le haut. Et donc on a toujours, à chaque catégorie sociale, on a une rupture de solidarité envers ceux qui sont considérés comme étant plus bas. Donc on dit qu'on n'a pas les mêmes intérêts que ceux enfin, ressentis comme étant un peu plus bas parce que ça nous tire vers le bas, donc ça nous disqualifie tout autant que en gros. Et donc on est dans cette même situation qui avait été qualifiée par les historiens à l'époque, donc en Allemagne, des années 30, un pays du travail forcé, un camp de travail forcé. Parce qu'avec des jobs à 1 euro de l'heure, que les gens sont obligés de prendre, parce que sinon ils perdent absolument toute protection sociale, toute aide pour le logement, voilà, ça devient absolument dramatique. Donc voilà à quoi mène une politique qui prend pour modèle l'Allemagne, la compétitivité des entreprises, notamment pour l'exportation, et la baisse du chômage. Que ce soit très clair, c'était exactement comme ça que les changements ont commencé en Allemagne, par des mesures telles que celles prises par Hollande avec son pacte de compétitivité et les milliards de baisse de charges et les milliards consentis aux entreprises. Donc j'en arrive maintenant à la protection sociale là-dedans, sous l'aspect plus concret du système de santé et de soins. Parce qu'il y a une structure entièrement différente. Et pourtant, là encore, on voit comment les mesures qui sont prises depuis quelques années en France, les franchises, les forfaits, la soi-disant responsabilisation des patients, franchise de responsabilisation. Il y a quelque chose avec le mot responsabilisation là-dedans, mais ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est toujours comme ça que ça a commencé en Allemagne aussi. Et donc, il y a des enseignements à tirer d'une comparaison malgré les différences. Et en fin de compte, si je peux me permettre d'anticiper déjà sur ma conclusion, c'est qu'il faut vraiment rien lâcher. Il ne faut rien lâcher, même sur le déremboursement d'un médicament, parce qu'on se dit, on milite contre la surmédicalisation, donc on se dit, mais pourquoi rembourser un médicament qui est inefficace? Mais parce que c'est la porte ouverte, parce qu'il y aura toujours demain quelqu'un qui dira, on a déremboursé les vénotoniques parce qu'ils sont inefficaces, donc demain, déremboursons telle autre classe de médicaments, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'elles sont inefficaces et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la casse commence. Donc il faut peut-être aussi réfléchir à ce qu'implique cette idée de peut-être d'une distribution équitable des ressources, d'une restructuration. Peut-être il faut réfléchir à ce qu'implique cette idée de l'efficience et des raisonnements économiques, et surtout ne pas accepter de lâcher quoi que ce soit sur les principes, en particulier sur la solidarité nationale. Parce que si on accepte des divisions, si on accepte de lâcher ici ou là, après, peu à peu, c'est l'ensemble qui s'effondre. Alors, des choses concrètes maintenant. Donc en Allemagne, on est assuré intégralement, soit en privé, soit en public. Il n'y a pas de système mixte. Donc à partir de 4180 euros par mois brut, on est assuré en privé. C'est pas un choix. Oui, effectivement. Et si jamais quelqu'un s'assure en privé et qu'il a des problèmes, il veut revenir vers le public, c'est extrêmement difficile. Donc il existe toute une série, bien sûr, d'assurances privées, mais il existe aussi toute une série de caisses d'assurance maladie publique. Donc c'est pas une seule. Ça n'a rien à voir avec la France. Et après, question de taux de cotisation, on va passer là-dessus. Et je parlais de rationalisation des moyens où il faut être très prudent, parce qu'en Allemagne, on arrive à du rationnement pour ce qui est des assurés publics. Donc on a commencé par payer un forfait trimestriel de 10 euros. Donc dès la première consultation chez le médecin, on paye un forfait de 10 euros. Il y a une participation de 10% du prix de vente pour les médicaments, quand même maximum 10 euros. Enfin, c'est limité. Frais d'optique, frais dentaires, pris uniquement en charge pour les personnes gravement atteintes. Pour ce qui est de l'hospitalisation, il y a une participation de 10 euros par jour pendant une durée maximale de 28 jours. Ce qui se passe là, c'est que, en particulier en médecine générale, pour ce qui est des assurés publics, eh bien, le médecin généraliste aura un budget forfaitaire trimestriel à gérer et à distribuer comme bon lui semble. Ce qui veut dire que, par exemple, il mise, et ça se passe très souvent, sur les patients plus jeunes et en meilleure santé, et donc on aura une personne plus âgée qui se verra dire ben, « Venez le trimestre prochain parce que là, vous avez épuisé par le nombre de consultations et le budget qui vous est attribué. » Donc, il y a une incitation financière pour les généralistes à respecter ce budget-là, et s'ils le dépassent, ben, ils doivent compenser leur poche. D'autre part, nous avons vraiment un abandon d'un certain nombre de personnes, en particulier les personnes avec des pathologies très lourdes et des personnes âgées, qui ne peuvent tout simplement pas être correctement soignées lorsqu'ils sont assurés dans le public, et ils ne peuvent pas, par exemple, choisir d'aller voir un spécialiste en privé. À supposer qu'ils le payent eux-mêmes, parce que alors on leur dit ben, si vous pouvez payer vous-même, même un médicament par exemple, des cas concrets où quelqu'un ne supporte pas un générique et veut un princeps, on peut en discuter, mais on lui dit non, vous ne pouvez pas payer la différence, vous ne pouvez pas l'acheter, parce que si vous pouvez acheter quelque chose, alors vous pouvez acheter une assurance en privé. Enfin bon, c'est extrêmement rigide. Alors, nous avons dans ce cadre-là des médecins en particulier libéraux qui privilégient bien sûr les assurés privés. Alors là, les cabinets de médecine libérale sont quasiment transformés en entreprise commerciale, mais assumés comme telles, c'est-à-dire que vous avez des secrétaires qui sont spécialisés dans les techniques de vente, vous avez une salle d'attente avec des spots publicitaires sur écran présentant tous les soins
qui sont considérées comme complètement inutiles, mais qui peuvent être administrées. Parce que les médecins se disent, eh bien, on va proposer par exemple une demi-heure de masque à oxygène par semaine en prévention de l'AVC. Ça ne fait rien, c'est inutile, par contre, ça ne fait pas de mal. Donc ils se disent, on est en clair avec la déontologie, on ne va pas nuire. Bon, ça n'apportera rien. Par contre, la caisse privée paye, la caisse publique ne paye pas, bien sûr, ce qui fait que vous avez vraiment une... Mais vous avez des dizaines et des dizaines de pseudo-soins, enfin, après soins individuels.
L'inflation par les mutuelles, c'est l'inflation par les mutuelles,
j'ai oui, voilà, on peut appeler ça comme ça.
C'est facile de dire.
Et puis, bon, c'est vrai que les caisses publiques cherchent à s'opposer à ces dérives. Des représentants interviennent aussi pour pester contre les conflits d'intérêts, essayer de les limiter, essayer de limiter aussi la surmédicalisation. Enfin bon, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais il y a beaucoup de choses quand même importantes à dire. Bon, je vais essayer de
conclure.
Bon, en tout cas, l'Allemagne avait un dispositif extrêmement efficace d'évaluation des médicaments sous l'angle bénéfice-risque et sous l'angle coût-efficacité. C'est l'ICWI, Institut für Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, c'est-à-dire Institut pour l'analyse du coût-efficacité dans le système de santé. Il a été mis en place en 2004, dirigé par un diabétologue spécialiste de l'EBM, qui était la tête de turc de l'industrie pharmaceutique, mais aussi, parce qu'en Allemagne, la couleur politique est déterminante, mais aussi donc, les chrétiens démocrates et des libéraux, qui ont eu sa tête en 2011. Et en 2011, est entrée en vigueur la loi de restructuration du marché pharmaceutique en Allemagne, la loi Amnon, qui laisse, par exemple, les industriels fixer librement, parce que le prix des médicaments est librement fixé en Allemagne de toute façon, mais pendant un an, les industriels sont libres fixer un prix pour leurs médicaments et l'évaluation peut n'intervenir qu'un an après. C'est-à-dire que l'ICWIC faisait une évaluation auparavant sur la demande d'un comité composé de représentants des caisses, des représentants des usagers et des représentants des médecins. Ce n'est plus le cas. Et bon, ben, si je dois arrêter...
Oui, je crois que... Alors, au cours de la discussion, éventuellement, tu pourras apporter des éléments supplémentaires, mais je pense qu'il faut qu'on ouvre la discussion sur l'ensemble de notre... Voilà, alors je prends les prises de parole à propos des interventions d'Elena, de Pino, de Jean-François Mazelier, qui souhaite. Bon, pendant que vous réfléchissez, je voudrais dire une chose qui m'était venue à l'esprit il y a une bonne dizaine d'années, sous forme d'une proposition de complément à la charte d'Helsinki. Alors, la charte d'Helsinki, comme vous savez ou vous ne savez pas, c'est la charte qui a réglé les problèmes concernant l'expérimentation chez l'homme, et c'est elle en particulier qui a introduit l'obligation d'un consentement éclairé des sujets qui sont éventuellement candidats ou auxquels on demande d'être candidats à participer à un essai clinique. Et c'était le moment où les données de ces essais cliniques étaient toutes considérées comme à la fois secrètes, un secret commercial, et la propriété exclusive des entreprises pharmaceutiques qui finançaient les essais et qui rédigeaient les protocoles et qui étaient les seuls à rassembler l'ensemble des données. Aucun des médecins qui participait à l'essai n'avait une vision d'ensemble, seule l'entreprise pharmaceutique prétendait avoir un droit de propriété là-dessus. Et il m'était venu à l'esprit, il faut croire que j'ai l'esprit un peu particulier, un peu retors sur ce genre de choses,
que, après tout, les patients eux-mêmes avaient aussi des droits. Car après tout, c'était leur... s'ils avaient au moins autant participé au déroulement de l'essai en prêtant leur corps à la science que les industriels en finançant l'essai. Et je m'étais dit que les patients avaient vocation à être copropriétaires des données. Et comme souvent, c'était une initiative venant d'un individu seul, qui n'appartenait pas encore à un groupe constitué aussi puissant que le groupe Princeps. Donc, ma proposition restait d'être mort, c'est-à-dire que je l'ai communiqué à une bonne centaine de personnes qui se sont assis dessus. Les choses sont arrivées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de malades donnent leur point de vue, et c'est bien ainsi, et les associations professionnelles donnent leur point de vue, et c'est bien ainsi. Et finalement, l'idée que les données cliniques soient un bien commun est une idée qui a fait du chemin, et nous y sommes presque. Donc, quand on revendique l'accès aux données, il ne faut pas dire « mais nous avons de bonnes raisons d'accéder aux données ». Elles nous appartiennent,
bien sûr.
Et ce n'est pas une faveur que nous ferait le gestionnaire de la base de données, de l'entrepôt de données, pour utiliser les données. Ce serait tout simplement reconnaître que ces données appartiennent. Alors, qu'il y ait quelques problèmes techniques sur la manière d'anonymiser et s'assurer qu'il ne pourrait pas, qu'on ne puisse pas faire un retour d'anonymat vers l'identification des gens, c'est normal, mais il ne faut pas céder au-delà de ça. Je pense que on pourra, sur ce sujet, avoir une discussion. Je voudrais simplement faire une petite remarque à propos de la communication d'Elena, qui a dit qu'il ne faut pas céder sur le déremboursement. Je voudrais simplement rappeler à Elena, qui le sait bien, que dans le groupe Princeps, nous avons pris une position très claire concernant les médicaments. Nous n'avons jamais prétendu qu'il était utile, opportun, nécessaire de faire des déremboursements parce que les médicaments seraient peu efficaces ou pas efficaces du tout. Ou quoi que ce soit. Nous avons, depuis déjà maintenant 3 ans, un peu plus même, pris une position que nous avons répétée d'un colloque à l'autre, qui est notre option, ce sont les médicaments essentiels. Nous ne faisons pas une sélection négative en disant, voilà, on va supprimer, il y a 5000 médicaments, on va en supprimer 5 tous les mois, faites le calcul pour savoir combien de mois il faudra pour arriver à quelque chose de raisonnable. Non, on a dit, nous allons faire une sélection positive. Et ça, personne ne peut critiquer une sélection positive. Nous avons le droit de dire, nous faisons une liste, et, y compris une liste restreinte de médicaments. Et sur ce point, je ne veux pas poursuivre, parce que demain, il y a un atelier qui est consacré exclusivement à ce sujet, mais sur ce point, nous avons bien montré que nous ne cédions pas sur cette espèce de magie. C'est pour ça que je suis quelquefois un petit peu réticent quand on nous parle de dire, de faire des listes, spécialité par spécialité, de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que faire des listes de ce qu'il ne faut pas faire, bon, faire des examens radiologiques chez le moindre traumatisé du crâne qui se porte bien, des choses de genre, non, c'est ça, nous avons tous à l'esprit ce genre de propositions, c'est d'une certaine façon se mettre dans la situation d'avoir à chaque cas l'ouverture d'une discussion. Les avantages, les inconvénients de la suppression de telle procédure, de tel examen complémentaire, de tel... Non, nous pensons que ce qui est important, et pas seulement à propos des médicaments, c'est de faire que la médecine retourne à l'essentiel. Alors, et je me tais après cette phrase, je repense à ce que Luc Périneau nous a montré il y a peu de temps, en nous disant les maladies virtuelles, ce sont les maladies que les médecins offrent aux patients, qui s'en saisissent souvent à leur détriment, mais pas toujours, que ces maladies virtuelles ou les maladies potentielles sont l'expression en médecine d'un basculement d'un système économique qui est passé de l'offre,
de la demande,
à l'offre. Et toute réflexion faite, je me demande si cette manière de présenter les choses, qui est probablement en partie vraie, ne cache pas le fait qu'on est passé de l'essentiel vers le futile. Et que je crois que nous aurions peut-être tort de croire que c'est un mouvement irréversible. Alors, je ne prétends pas que j'ai la recette pour renverser les choses, mais quand on dit aux gens « le choix n'est pas entre avoir beaucoup de futile et un peu d'utile », mais c'est le choix, c'est d'avoir des médecins qui font la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Parce qu'à ce moment-là, nous parlons un langage qui est un langage, on peut dire de bon sens, je ne sais pas si le bon sens, c'est ce qu'il faut appeler à la rescousse, mais enfin, un langage qui est un langage qui peut être compris par une grosse majorité des gens. Qui demande la parole ?
Il reste 4 minutes. Il reste
4
minutes avant la
fin. Ça, c'est un peu compliqué. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la simplicité de la question qui se pose. Et c'était en relation avec l'exposé de notre ami Luc Perrino, dont j'ai beaucoup apprécié la clarté. Mais il a fait un aparté qui va exactement dans le sens du prolongement que tu as fait sur le retour à l'essentiel. Il nous a dit, je l'ai noté parce que j'étais en dilemme, oh, la santé n'est pas c'est le lieu de conflit d'intérêts. Et je revoyais, c'est dans la République de Platon, le dialogue entre Trasimaque, hier, c'est pas seulement 10 ans, hein, là on est à 2500 ans. Le dialogue entre Trasimaque et Socrate, qu'est-ce qu'une action qui est bonne, qui est juste ? Trasimaque, défend le point de vue que l'action est bonne au moment où elle sert l'intérêt de celui qui l'a fait, la loi de l'offre. Et puis, il y a évidemment l'attitude de Socrate qui nous dit, ah non, l'action qui est bonne est celle qui sert l'intérêt de celui à qui s'adresse cette action. Ça, c'est donc la République de Platon. Et pour bien clarifier pour le lecteur les enjeux du débat, l'exemple que prend Platon, donc celui qui a mis en mots ce qui était discuté sur la place publique sans qu'on ait des traces écrites de Socrate, il prend l'exemple de la médecine pour nous montrer ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, ce que c'est, quelle est la valeur d'une action qui est celle déposée par Socrate. Et aujourd'hui, j'entends de la bouche de celui qui nous montre la vérité sur notre système, que, en fait, ben oui, la santé, c'est le lieu des conflits d'intérêts. Donc, on n'a qu'à revenir à ce que tu nous dis, de retrouver quelle puissance même de la profession médicale et de la justesse de la transformation. Voilà.
Encore une question. Mélisse.
Peut-être que c'est très intéressant d'interroger ce qui est important de ce qui est accessoire, mais accepter que la vision globale qui peut en ressortir ne soit pas forcément la vision médicale. Et je reviens sur cette notion de facteur de risque, par exemple, qui en effet est quelque chose d'hypothétique. Mais ça permet, par rapport à notamment l'hypertension artérielle, par exemple, au sujet de se réapproprier sur des tensions artérielles qui peuvent être élevées, de se réapproprier et une histoire familiale et un avenir. Hein. Et ces notions-là, je pense que on les utilise, on les caractérise un peu facilement en tant que médecin sur l'approche qu'on peut en avoir. On oublie que la construction pour le sujet qu'on a en face de soi peut être complètement différente, et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut essayer de retravailler pour renouer du dialogue. Ensuite, on parle des données, juste un deuxième point. Est-ce qu'elles sont vraiment colligées ? Je rejoins Omar. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a une opacité complète, ou est-ce qu'en fait ça reflète juste un manque de travail, ou un manque de capacité, ou de, voilà, peu importe son jugement de valeur, mais voilà, quelque chose qui n'a pas été fait en fait, et qui fait qu'aujourd'hui on fait semblant de ne pas vouloir en parler parce qu'en fait ça n'existe pas, donc ça existe très mal.
Bien, merci beaucoup. Je pense que là, on achève notre atelier, il faut que je raccompagne, mais ça c'est pas grave, on va aller continuer en même sens, mais c'est la pause là.
Non, il n'y a pas de pause, on entraîne tout de suite sur l'assemblée plénière.
Je me dépêche. Non.
Rapide, un petit pipi.
Au revoir, merci, bonjour.
Merci.